Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc c'est la deuxième partie de notre réflexion et partage sur les prophéties, en particulier les prophéties sur Internet. Et le sous-titre que nous avons voulu donner avec Samuel aussi, c'est basé sur 1 Thessaloniciens 5, où il est dit « N'éteignez pas l'esprit, observez toutes choses, retenez ce qui est bon, donc observez. » Et plusieurs réflexions me sont venues encore avant d'aller sur du concret, parce que je ne voulais pas donner des généralités, mais j'ai osé prendre deux prophéties qui ont été partagées. La première s'intitulait « Maranatha », et donc on en a déjà parlé, elle est à votre disposition. Et la deuxième, c'est celle de David Wilkerson, « Être prêt n'est pas une plaisanterie ». Et donc, j'ai pensé aussi en introduction lire le Proverbe, ça me semble particulièrement adapté, le chapitre 1 tout simplement. Donc le Proverbe pour le fils de Salomon, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Le discernement. Souvent on dit que c'est une période dans laquelle nous avons besoin de beaucoup de discernement. Parce qu'il y a une confusion, il y a tellement de sources d'informations diverses que maintenant on a l'impression que pour beaucoup de gens, c'est pas qu'on n'ait pas d'informations, on en a tellement qu'on n'arrive pas à bien les gérer et savoir où mettre quoi. Et vous comprendrez aussi que ce proverbe n'est pas juste comme un proverbe, comme nous, des fois, on se dit des petits proverbes, des petites maximes qui font joli après la pluie, le beau temps, des choses comme ça. Ça va pas loin. Mais là, c'est parce qu'il y a un idéal de construire une vie qui a vraiment de la valeur. C'est un fils de roi qui veut être élevé selon certains standards. Vous vous rappelez peut-être, sinon c'est moi qui vous le rappelle, que dans Philippiens, gardez dans un proverbe, mais moi je vais dans Philippiens. Quand l'apôtre Paul cite aux Philippiens en disant que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange sur l'objet de vos pensées, il faisait quoi? Il était en train de lancer un défi aux chrétiens de Philippe pour qu'ils adoptent le même standard élevé qui était dans la pensée de la sagesse des Grecs. Les philosophes grecs et les penseurs avaient élaboré un standard très élevé, c'est-à-dire une personne de valeur, qui a de la qualité, c'est quelqu'un qui a développé un certain nombre de vertus. Et ils ont listé les 7 vertus qu'on vient d'énumérer en disant, si quelqu'un rassemble toutes ces vertus, c'est quelqu'un qui sera admiré chez nous. On dira, ça c'est une personne de qualité. Donc, l'apôtre Paul, comme il avait l'habitude, il prend des choses qu'il voyait autour de lui et il dit, mais c'est, le standard chrétien, c'est ça aussi. Vous faites aussi bien que ceux du monde qui ont des standards de cette nature. Donc là aussi, on est dans un proverbe où quelqu'un, un roi, veut donner des instructions à son fils, donc ce sera un prince, quelqu'un qui sera élevé dans une maison royale, qui aura peut-être une grande destinée, et donc il lui dit, il y a des choses que tu dois recevoir. Tu dois pas rester bêta. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Tu n'es pas juste là pour être un esclave. Nous ne sommes pas pour l'esclavagisme, bien sûr. Parce que Jésus est venu pour délivrer de l'esclavagisme, de l'esclavage, de toute forme d'asservissement. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais le fait est que depuis que le péché est dans le monde, eh bien, beaucoup de gens sont esclaves de toutes sortes de choses. Et donc là, c'est quelqu'un qui est appelé à vivre une vie plus élevée, un fils de roi. Et nous sommes fils et filles de roi. Vous ne devez pas vous contenter d'une vie médiocre. Des fois, on dénonce dans la société ceci et cela qui se fait, qui est contre Dieu. Moi, je crois que c'est une des choses qui est la pire contre Dieu, c'est des chrétiens médiocres. C'est quand nous ne donnons pas gloire à Dieu dans ce que nous faisons, que nous avons un mauvais témoignage par rapport à ceux du dehors. Donc ici, nous sommes exhortés à comprendre la sagesse, l'instruction, des paroles de l'intelligence, même les leçons de bon sens. Des fois, il n'y a même plus le bon sens dans certaines choses qui se font. Parce que le bon sens, on ne l'apprend pas tellement à l'école, on l'apprend par transmission. Ça se transmet de génération en génération. Donc quand il y a des fossés entre générations, quand il n'y a pas de transmission, on n'a même plus le bon sens. La justice, l'équité, la droiture, ça c'est des standards de noblesse très élevés. Donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Quelqu'un qui est intelligent dira jamais « maintenant je suis assez intelligent ». Parce qu'il saura que on peut toujours apprendre, on peut encore progresser. Et il y a des choses qu'on trouvait importantes hier, on a appris des choses et maintenant on se dit « je suis allé plus loin, j'ai grandi, j'ai appris ». Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel, ça veut dire avoir cette conscience que Dieu est là, qu'il nous observe, non pas pour avoir peur de lui, mais pour dire oui, c'est une réalité, Dieu est là, et je vis devant lui, dans sa présence. Donc je ne fais pas n'importe quoi de ma vie, je ne vais pas la gâcher, la gaspiller. Concernant justement maintenant toutes sortes de prophéties, nous sommes contents qu'il y ait des prophéties. Même Moïse disait à Josué, mais moi je veux que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes, qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de la part de Dieu. C'est ce que nous désirons. Mais en même temps, comme nous avons récemment étudié les dons de l'Esprit, nous avons vu que tout don, au départ, il est parfait. Quand ça vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est excellent et parfait. Et dès que ça passe par nous, c'est entaché de notre culture, de nos habitudes, de nos pensées, de nos raisonnements, voire de nos imperfections. Donc il y a toujours un petit peu... Alors, nous ne voulons pas rejeter le bébé avec l'eau du bain, mais nous voulons discerner et voir qu'est-ce qu'on peut retirer. Lorsque j'étais plus jeune dans la foi, j'avais un certain nombre de raisonnements que j'ai vus qui n'étaient pas justes. Par exemple, quand un homme de Dieu disait quelque chose, je ne veux pas dire que j'étais crédule, mais ça me semblait difficile de me dire, mais ça c'est maintenant un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans le ministère, qui est sérieux, que j'ai du respect, il dit ça. Donc je pensais qu'il fallait l'accepter, ou alors si je rejette une partie de ce qu'il dit, c'est comme si je rejetais aussi la personne, le ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en grandissant, on se dit, mais finalement, il n'y a personne qui est parfait. On peut même être sincère, servir Dieu et se tromper complètement dans un domaine. Je me rappelle en particulier la personne qui a amené Billy Graham à la foi, le pasteur. C'était un pasteur baptiste qui, à la fin de sa vie, il était âgé, et il s'est retrouvé dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, où l'Esprit de Dieu est tombé sur plusieurs personnes, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont mis à parler en d'autres langues, et il était submergé par cette manifestation de l'Esprit de Dieu. Il dit, oh, mais c'est formidable. Il a dit, et dire que j'ai combattu ça pendant toute ma vie. Donc il était un serviteur de Dieu, il a prêché la parole, mais il y a un domaine de sa vie où il n'y avait pas la révélation de ce que Dieu voulait faire au travers de l'Esprit de Dieu, et il s'est planté. Alors, est-ce qu'il faut maintenant rejeter tout le reste qu'il a fait? Il a au moins eu un fruit dans son ministère, c'est que Billy Graham est venu à la nouvelle naissance, qui lui-même ensuite a été employé par Dieu. Vous voyez, donc, on ne doit pas être extrémiste dans le sens de tout accepter et tout refuser. Moi, je crois que, autant, il faut être passionné et zélé pour Dieu, mais... Vous voyez dans quel extrême certains sont conduits et ils font des bêtises énormes, déjà de compréhension. Donc, on a vu déjà, dans la première partie, que autant nous avions dit que Wilkerson, dans ce qu'il a partagé, était certainement inspiré par un certain nombre de choses qu'il voulait partager concernant le fait que le peuple de Dieu se réveille, qu'il soit prêt, que nous avons dit, nous avons beaucoup de sympathie pour tout ça, parce qu'on peut voir qu'il y a un désir sincère de sa part, que les choses changent, qu'il y ait de la repentance dans le peuple de Dieu, qu'il y ait des personnes qui s'apprêtent. Et en même temps, on a déjà vu que des fois, il y avait des confusions entre avènement de Jésus et enlèvement de l'Église. Et donc, j'en suis, pour ceux qui auront l'occasion peut-être de l'avoir imprimé, j'en suis à la page 3 sur 8, et on va aller un peu plus vite aujourd'hui. Donc je dis encore une fois, on n'est pas là pour critiquer, mais pour se rappeler que dans l'Épître aux Hébreux aussi, il nous est dit que nous, on devrait maintenant être des maîtres pour discerner, avoir exercé le discernement et le jugement entre ce qui est bon et ce qui est pas bon, ou disons ce qui est pas utile. Dans mon dernier message sur les dons spirituels, c'était aussi Jérémie 23, est-ce qu'on a assisté au conseil de Dieu? Est-ce qu'on a entendu de lui? Il nous est dit, si on n'a pas fait ça, si on n'a pas entendu de lui, alors ce que nous apportons est inutile à ce peuple. Donc c'est important que ce que nous apportons soit utile, et qu'on ne soit pas dans le tout rien. Et là, donc, il y a une partie très, très importante par rapport à l'état de l'Église. Dans la majorité des Églises, on ne prêche plus le retour de Jésus, on ne prêche plus contre le péché, et que l'on doit vivre dans la sainteté, que nous devons nous séparer du monde. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Donc là, 2 Corinthiens 6, nous sommes clairement dans une épître qui s'adresse à l'Église. Donc il y a là une exhortation. Nous ne pouvons pas le comprendre ici au centre chrétien qu'on ne prêche pas le retour de Jésus. Chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, on en parle, même si on a l'impression d'entendre toutes les semaines pratiquement cette phrase, mais c'est une réalité. Toutes les semaines quand nous le prenons, il nous est dit, nous parlons du sacrifice de Jésus et nous annonçons son retour. Et c'est vrai qu'il y a des soi-disant églises chrétiennes qui parlent très peu, voire pas du tout, du retour de Jésus, que nous croyons. Nous croyons à l'enlèvement de l'Église, nous croyons à tout ce qui va se passer selon la Bible, et nous croyons au règne de 1000 ans du Christ, qui est pour bientôt. Ne pas prêcher contre le péché, là encore, je ne peux pas globaliser, je ne peux pas dire d'une manière générale. Ce qui est important, c'est que dans le monde actuellement, on veut vous faire croire des fois que le bien c'est le mal et que le mal c'est le bien. Faire croire que ce qui n'est pas bien, c'est d'être intolérant, d'être trop rigide, d'être voilà. Donc ça, c'est pas bien. Mais donc nous avons besoin de nous référer de nouveau à la parole de Dieu, comme nous le disons des fois. C'est elle qui est notre miroir. Des fois, nous, on a l'impression d'être bien, mais par rapport à quoi ? Les gens disent, mais je suis pas pire qu'un autre. Alors, du coup, on estime que je suis assez bon, je suis un peu mieux que la moyenne. Mais tout ça, devant Dieu, ça ne tient pas. Devant Dieu, on regarde dans le miroir de la parole, et à un moment donné, par la conviction du Saint-Esprit, on a dit, on est convaincu de péché. On se rend compte, non, je ne suis pas digne de Dieu. Ensuite, sa grâce vient sur moi, et ensuite, je peux donc devenir enfant de Dieu. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus le péché qui domine sur ma vie, puisque le péché qui était sur moi ou en moi a été mis sur Jésus pour que sa justice vienne sur moi. Mais par contre, dans l'Église, il faut toujours savoir dire certaines choses qui ne sont inacceptables. Toujours. Et donc, que l'on doit vivre dans la sainteté. Des fois, je crois qu'on confond aussi la sainteté avec certaines habitudes. Si quelqu'un maintenant de l'extérieur paraît saint, ça veut dire que peut-être il a adopté un style de vie, une habitude qui convient. Je ne sais pas, ça peut être style vestimentaire, la longueur des cheveux ou d'autres choses comme ça, qui finalement ne sont pas tellement importantes concernant la sainteté. Donc nous avons besoin de voir à quoi on est appelé. La sainteté, c'est être mis à part pour Dieu. Vouloir vivre comme tout le monde ne doit pas être le rêve de tout chrétien. Donc il nous est rappelé qu'au jour de Noé, il en sera à l'avènement du Fils de l'homme. Les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 28, 37, 38, 39. Donc ici, on parle clairement de l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il n'est pas question ici de l'enlèvement de l'Église. Hein? C'est le retour de Jésus, c'est le moment où le temps de la grâce est terminé. Comme du jour de Noé, on en parlera peut-être plus tard encore une fois, c'est Dieu qui avait fermé la porte de l'arche. Il y avait des années que Noé avait été un prédicateur de la justice, il nous est dit, dans la Bible. Pendant environ 120 ans, il a prêché. Et les gens n'ont rien voulu écouter. Et il a été sauvé, lui et sa famille. Donc pour nous aussi, ce qui est important, c'est de savoir où on est. Par contre, tout de suite après, donc Wilkerson dit, « Mon peuple n'est pas prêt pour mon retour prochain. » C'est là que je dis des fois, c'est cette confusion au niveau de sa prophétie, parce que on parle de l'avènement de Jésus, l'instant d'après, on parle du peuple de Dieu et de son retour prochain. Le retour prochain, pour nous, en tant que chrétiens, c'est d'abord quoi? L'enlèvement. Venir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il nous est dit, ça vient en un clin d'œil. Alors, il a un tableau négatif de l'Église, qui, pour beaucoup de choses, c'est une réalité. Hein. Ils vivent plus pour eux-mêmes que pour moi. Ils vont à l'Église le dimanche. Ils ont hâte que la réunion finisse pour retourner à leurs activités. Ils vivent loin de moi. Comme on dit, chacun se reconnaîtra. Pourtant, la parole dit qu'ils s'approchent de moi et je m'approcherai d'eux. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils ne pensent pas à se préparer pour ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont devenus tièdes et durs? Pourquoi sont-ils dans la confusion morale et n'ont-ils plus de discernement? Pourquoi accueillent-ils n'importe quelle doctrine qui vient de l'enfer? C'est justement ce à quoi nous voulons remédier en donnant du discernement, en permettant aux gens de faire des réflexions. Mais mon peuple s'ennuie dans les églises. Je pense qu'effectivement, on peut s'ennuyer dans l'église, mais ça dépend avant tout de nous et de notre attitude. Si nous sommes à l'endroit où Dieu nous a dit qu'il y avait un rendez-vous avec lui, il y aura une provision de la part de Dieu et pas d'ennui. Si vous me permettez, je vais nous faire une petite comparaison du milieu du sport. Alors, nous avons organisé un entraînement spécial, puisque maintenant des plus jeunes vont rejoindre des plus grands. Et donc, à la fin, nous étions avec une maman et d'un garçon, et puis c'était la première fois qu'il était avec les grands. Et alors, elle a dit « Alors, comment ça s'est passé ?» « Oh, je me suis un peu ennuyé. » Alors, j'ai trouvé que c'était tellement vrai, parce que de petit garçon, il va aller maintenant chez des plus grands, et là, on ne joue plus à la baballe, on n'attend pas, tiens, est-ce que quelqu'un me donne la passe, etc. Mais il faut bouger sur le terrain, il faut trouver des espaces, il faut essayer de l'apprendre aux autres, c'est ça le jeu. Et donc, vous voyez, là, il y a des comparaisons, puisque l'apôtre Paul aussi faisait des comparaisons par rapport au sport. Ici, mon peuple s'ennuie dans les églises. En petit enfant, voilà, on est dans les bras de la maman, on reçoit le biberon, etc. Puis on grandit dans les églises, et puis il y en a qui font rien. Alors, ils commencent à s'ennuyer. Ils disent, on ne fait plus la passe, on ne joue plus avec moi, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, t'as grandi maintenant. Et c'est à toi de prendre ta place, d'agir, de trouver qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Et donc, on s'ennuie parce qu'on veut s'ennuyer, en réalité. Des fois, on a décidé de s'ennuyer, alors on peut vous proposer tout ce que vous voulez, vous allez quand même vous ennuyer. Ça, c'est une expérience de parents. Mais le peuple de Dieu ne doit pas s'ennuyer dans les églises. À moins que vous soyez dans la mauvaise église, où on ne vous donne pas l'occasion ni de vous exprimer, ni de vivre quelque chose, où ce qu'on vous dit ne vous apporte rien, alors il faut absolument prier et chercher, dire « Seigneur, où est-ce que tu me veux ?» D'accord ? Ça aussi, ça fait beaucoup de mal, des fois, quand on a dit « vous devez toujours rester fidèle au même endroit ». Non, on est évolutif, on grandit, on bouge, on change de structure. Même si vous étiez petit et très heureux avec papa et maman, à un moment, Dieu a peut-être un plan pour vous de quitter le foyer familial et de vivre votre vie. Donc, de la même façon, on a besoin de se lancer des défis. De la même façon qu'à un moment donné, on veut jouer en tant qu'enfant, et puis on commence à mêler au jeu certaines activités où on prend plus de responsabilités, ça s'appelle du travail ou de l'activité, mais on peut être heureux dans son travail. Heureux. Mais il n'est pas dit le travail dans le sens de la malédiction de Genèse, tu travailleras à la sueur de ton front comme une malédiction. Il dit heureux dans son activité. Ça, c'est autre chose. Donc les chrétiens sont tièdes et durs, c'est à eux de se placer devant Dieu, de dire « Seigneur, je vois dans Apocalypse que tu parles à ton Église et je veux de nouveau devenir bouillant et alors on se donne les moyens ». Dur, si vous remarquez que vous êtes dur dans votre attitude, vous êtes devant Dieu, vous demandez et vous faites en sorte qu'il puisse de nouveau vous attendrir au fond de vous-même, que la voix de votre conscience soit de nouveau plus audible en vous. Confusion morale, c'est à un moment donné, il y a ce cri dans les prophètes, il faut qu'on revienne à la loi et au témoignage. Il y a des choses qui sont des lois spirituelles immuables, elles bougeront jamais. Donc quand on est dans une confusion, il faut revenir à certaines lois de la parole. Oui, ça existe, une loi de la parole. Et des fois on veut dire, la loi c'est terminé, maintenant on vit dans la grâce. Mais l'apôtre Paul avait dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair et de tout ce que vous vous désirez. Vous allez dire, c'est bien parce que je suis libre maintenant. Accueillir n'importe quelle doctrine qui vient de l'enfer. On a entendu tellement d'histoires bizarres, je me rappelle en particulier des choses qui circulaient, où Jésus faisait le guide touristique de l'enfer, il en met des petits groupes de chrétiens pour leur montrer comment c'était et tout, et on gobe tout ça, on dit, mais attends, moi je ne crois pas que Jésus fasse ça, ou imaginons-nous que Jésus fasse des choses comme ça, emmener des groupes de chrétiens dans l'enfer pour qu'ils voient que c'est terrible et qu'ils puissent dire aux autres, attention, n'y allez pas. Jésus avait dit, mais c'est pas la peine, même si quelqu'un des morts ressuscitait, certains ne croiraient pas. Il faut qu'ils croient la parole et le témoignage que nous donnons, et qui est selon ce que lui a fait, et pas essayer d'imaginer des idées nouvelles. Même si c'est bien intentionné, ça n'aide personne finalement. Et en plus, ce n'est pas crédible. Et après, il nous est dit, une doctrine qui vient de l'enfer, c'est aussi toutes les interrogations qu'on a sur les sorciers et les anciens gens possédés par des démons, comment peuvent-ils vous enseigner? Ils sont confus parce qu'ils étaient possédés. Donc, nous avons besoin de revenir à ce que Dieu dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si Dieu vous fait jouir de certaines choses qui sont dans ce monde, dans le sens de la terre, tant mieux, il y a des bonnes choses que Dieu a créées pour nous. Mais ici, il nous est question du système du monde. Il nous est dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On ne peut pas aimer les deux à la fois, puisqu'ils sont contraires, opposés. Donc de certains, il nous est dit, l'amour de Jésus se refroidit de plus en plus. Alors, premièrement, il nous est dit, parce que les pasteurs eux-mêmes sont endormis et n'ont aucune vie spirituelle en eux. Ésaïe nous dépeint quelques-uns de ces pasteurs. Dans Ésaïe 56:9, là encore, lui, il utilise maintenant le terme pasteur dans le sens pasteur d'une église chrétienne et ça fait référence aux bergers qui étaient dans le peuple de Dieu du temps d'Israël. D'accord? Donc, il y a bien sûr des enseignements, des similitudes, mais c'est pas un enseignement absolu qu'il faut retenir. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment le sommeil. Ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. » voyez, donc c'est assez négatif et on peut pas dire maintenant dans l'Église tous les bergers, tous les pasteurs sont comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il se peut qu'il y ait des personnes qui prennent des titres, que ce soit maintenant pasteur ou évêque ou apôtre ou bishop ou je ne sais quoi encore. On nous donne tellement de titres tout le temps qu'il y ait des gens qui ne soient finalement rien du tout. Ils sont autoproclamés, mais ils n'ont pas même de ministère. Donc, on n'a pas besoin de suivre ces gens. Il y a des hommes aveugles sans aucun message venant du Saint-Esprit. Ils n'ont pas de cœur pour les brebis qui se font dévorer. Ils ne comprennent rien aux choses spirituelles. Donc ça continue dans les choses négatives, là encore. Hein. Alors, des bergers qui sont aveugles et endormis parce qu'ils passent leur soirée devant la télévision à regarder des ordures. Deux points. Voilà un verset encore utilisé. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Vous avez déjà souvent entendu citer ce verset, certainement. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu la curiosité de le regarder dans le contexte? Parce qu'en fait, il ne dit pas du tout ce que là, on veut lui faire dire. Mais on va y arriver. Matthieu 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent des robes. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » On parle là de l'argent et des possessions matérielles. Hein. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Voilà ce qui est important dans ce passage. Et maintenant il explique. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Et on conclut dans le même thème. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon étant la divinité de l'argent personnifié. Donc il est question ici de servir Dieu ou les richesses matérielles. Il n'est pas question de la façon dont j'expose mes yeux à un spectacle quelconque. Comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que quand Jésus avait donné cette parabole des ouvriers de la première heure, deuxième heure, etc., à la fin, il nous est dit que ceux qui n'avaient travaillé qu'une heure ont reçu la même récompense que les autres. Et donc quelqu'un a fait un reproche au maître en lui disant « Mais ils ont travaillé une heure et nous on a travaillé plus. » Et à ce moment-là, le Seigneur ou le maître dit « Mais est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je ne sois bon ?» À nouveau l'idée du mauvais œil. Ici, avoir un œil qui n'est pas en bon état, ça veut dire avoir une fausse vision du monde tel qu'il est. Dieu veut se montrer bon et généreux envers les gens. Donc les pharisiens et autres qui écoutaient ça, il nous est dit quelque part dans les évangiles qu'ils étaient avares. Donc ils sont avares, ils sont radins, ils ne comprennent rien à la bénédiction de Dieu telle qu'il veut la manifester. Ça veut dire que leur œil est en mauvais état. Ils ont une mauvaise façon de voir les choses. C'est ça que ça veut dire dans ce contexte. Pourquoi alors j'ai fait cette parenthèse? C'est pour vous montrer que bien intentionné, il utilise le verset qui n'a rien à voir avec le sujet qu'il veut illustrer. Si j'avais voulu dire aux gens que ce n'est pas bien de regarder la télévision, des ordures, etc. Ça, c'est le côté un peu enseignant. J'aurais, par exemple, pris le psaume 101, verset 3. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Vous voyez? Parce que là, il y a une application directe. Il est important que vous appreniez à discerner et ne pas simplement avoir... Je dis une chose, je colle un verset derrière et je fais semblant que c'est ce que je dis est appuyé par la Bible. C'est ça qui ne marche pas la plupart du temps. C'est ce que les chrétiens font tellement avec les gens de l'extérieur et qui ne marche pas. Et on a tous remarqué qu'on ne gagne personne à Christ. en les bombardant de versets bibliques. La plupart du temps, ce sont des versets de condamnation, etc. On leur parle de choses qu'ils ignorent, qu'ils sont incapables de discerner. Donc moi, je suis d'accord de dire que spécialement les serviteurs de Dieu, mais on est tous appelés à être serviteurs de Dieu, servantes ou serviteurs, c'est pas juste réservé aux pasteurs, et doivent se sanctifier, se mettre à part, ne doivent pas s'exposer à regarder des ordures. Et donc, prenons le verset de la parole de Dieu de Psaume 101:3. Et gardons Matthieu 6:23 pour ce qu'il a voulu dire. C'est notre façon de voir ce que Dieu veut faire dans ce monde. Et donc, on peut croire qu'on a un titre et se rassurer soi-même, mais nous savons dans la parole de Dieu que certains ont été rejetés dans l'Ancien Testament, mais ils croyaient encore qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu et ils s'accrochaient à ces trucs. Alors il dit qu'il y a une attitude qui est tellement répandue dans l'Église, et ce n'est pas étonnant que nous vivions dans une nation éloignée de Dieu et rétrograde. Donc là encore, nous avons Wilkerson qui parle aux Américains. Et il parle particulièrement des États-Unis, qu'il appelle lui, hein, c'est pas moi, une nation éloignée de Dieu et rétrograde. Là, je vais encore aborder une chose. Il existe un mythe du pays de Dieu qui serait la terre promise, c'est-à-dire les États-Unis. La réalité historique, c'est que ici en Europe, nous avons connu des réveils spirituels, nous avons connu des persécutions, et il y a des gens qui sont allés dans des terres qui étaient relativement vierges, parce qu'il y avait quand même des gens qui habitaient là-bas. On les a pourchassés et massacrés. Bon, ça c'est un autre thème. Mais donc, il y a des gens qui ont voulu découvrir une terre de liberté où ils pourraient vivre leur foi. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que maintenant Dieu avait créé ce continent à part et que ça serait la nation de Dieu. Le pays de Dieu, Canaan, il n'y en a eu qu'un seul. C'était la terre d'Israël. C'était le Canaan pour Israël. Et pour nous, Canaan n'est pas sur cette terre. Dans ce sens que nous devions faire une nation chrétienne. Canaan, c'est notre vie en abondance avec Jésus tous les jours. Et il y a une Jérusalem céleste qui vient. Mais ici, ça c'est un aspect vraiment culturel de la prophétie de Wilkerson, qui n'est pas reçu de Dieu, mais qui est en rapport avec ce que eux croyaient, un certain nombre de personnes, c'est-à-dire que Dieu avait un plan spécial pour les États-Unis. Pour moi, Dieu a un plan, bien sûr, il a un plan pour les nations, il a un plan pour chacun individu, il a un plan pour les églises, mais c'est pas comme si les États-Unis étaient majoritairement chrétiens, et maintenant ils se sont détournés de Dieu, etc. Ça, c'est une façon presque de personnifier une nation. Est-ce qu'une nation peut être chrétienne ? Elle peut être composée de chrétiens. Je veux dire, plus il y a de chrétiens, plus ils sont sanctifiés, plus ils œuvrent pour Dieu, plus cette nation sera bénie, normalement. Mais dans un sens, vous voyez, les problèmes qu'on peut avoir à vouloir coller des choses comme ça, nation chrétienne contre nation autre. Donc il parle de la réalité de certaines églises qui ferment leurs portes, qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu qui vit dans la prière, le jeûne. Tout ça, c'est des réalités qui peuvent être, mais il dit, l'apôtre Paul, presque à la fin de sa vie, faisait cette prière, « Mon but est de le connaître, lui. » Philippiens 3:10. De le connaître, lui, ça ne veut pas dire qu'il ne le connaissait pas. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui s'appellent pasteur, c'est vraiment un problème. Mais nous avons tous encore à grandir dans sa connaissance de lui. Ensuite, il dit, il n'y a plus d'hommes de Dieu qui pleurent en faveur des brebis, sachant qu'il y en a parmi elles qui vont en enfer. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Soit ça, c'est des brebis, soit elles vont en enfer. Mais c'est pas les deux. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. On peut recevoir des prophéties de toutes sortes, mais après, il faut discerner, il faut voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Si on est une brebis, ben, Jésus disait, je suis le bon berger. Nul ne les ravira de ma main. Les brebis ne sont pas, si c'est des brebis du Seigneur, elles ne vont pas en enfer. C'est soit l'un, soit l'autre. Si elles vivent selon la chair, même si c'est tragique, Mais ça ne leur fait pas forcément perdre leur salut à cause de ça. Il en faut plus pour ça. Il faut vraiment renier le Seigneur et renoncer au salut. C'est dommage qu'il y ait ces confusions. Il dit, quel que soit l'état des serviteurs, nous avons tous notre part de responsabilité. Même si d'autres, des pasteurs, il dit, certains pasteurs sont morts spirituellement. Ça dépend. Est-ce qu'ils ont jamais été vivants? Est-ce qu'ils ont renié? Est-ce que, on ne peut pas discerner sur ça. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais la suite, c'est, nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous guider, nous aider à la comprendre. Vous ne pourrez pas au jour du jugement faire tomber le blâme sur aucun pasteur ni sur aucune église. Vous avez votre Bible, étudiez-la, apprenez à connaître Jésus par vous-même et mettez-la en pratique. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement. Là encore, il y a une notion qui est très bizarre, c'est que des gens pensent, jugement, c'est la même chose que ce qui se passe ici-bas sur terre. C'est-à-dire, on passe au tribunal, et puis il y a des discussions. Il y a l'accusation, il y a la défense, il y a les excuses. Mais où, dans la Bible, voyons-nous toutes ces choses? Moi, je vois une chose. C'est que, il nous est dit, lorsque nous passons de la mort à la vie, quand on devient chrétien, né de nouveau, on est déjà jugé en Jésus. Il n'y a plus de jugement. Certains trouvent que c'est trop beau. Non, c'est l'évangile. Il n'y a plus de jugement. Nous avons déjà été jugés. Nous passerons au tribunal de Christ dans le sens que tout ce que nous aurons fait en son nom sera valorisé. Ensuite, il y aura, il nous est dit, le jugement dernier, celui pour quand les livres seront ouverts, ils n'auront pas accepté Jésus. Et là, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas d'attaque, défense, excuse, etc. La Bible nous dit, ils auront la bouche fermée. Il n'y aura que le jugement de Dieu. Tu as rejeté Jésus, tu es perdu pour l'éternité. C'est aussi simple que ça. Quelles que soient les choses qu'on a fait pour sensibiliser les gens, le film de ta vie, de dire tout passe devant tes yeux, il n'y a pas de temps pour ça. En un instant, ça sera jugé. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas un temps non plus de purgatoire évangélique où nous sommes en train de discuter et, voyez, même rendre compte de quoi. Il n'y a pas une discussion entre moi et Dieu en disant « Ce jour-là, tu as fait ci, mais je t'avais demandé de faire ça et tu n'as pas fait. » Il n'y a pas des discussions comme ça. C'est les gens qui imaginent. Pour nous, il y a une seule chose maintenant, c'est cette préparation. Ceux qui sont prêts vont être enlevés pour se marier avec Christ, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. L'épouse s'est préparée. Jésus ne revient pas pour une épouse qui dort. Il revient pour une épouse qui l'attend. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Je dis, si nous avons de l'amour pour Dieu, si on a compris quoi que ce soit à la vie chrétienne, est-ce qu'il faut nous frapper sur la tête pour dire « Écoute, il faut te préparer. » À un moment donné, quand on entend cet appel, « Il vient », on se prépare. Elle ne dort pas. La fiancée, elle aime son fiancé. Elle se fait belle pour qui ? Ben pour lui plaire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses autour maintenant, c'est beaucoup le snobisme, le qu'en dira-t-on, certaines fêtes somptueuses qui doivent impressionner tout le monde, mais la seule pensée de la fiancée, ça devrait être de lui plaire à lui. C'est pas plein d'autres choses qui devraient occuper son esprit. Donc nous, quand nous nous préparons pour Dieu, ce n'est pas pour d'autres motifs, ce n'est pas par peur d'aller en enfer ou purgatoire ou je ne sais où. Ce n'est pas pour avoir une conscience tranquille, c'est uniquement parce que nous l'aimons et que nous voulons vivre cette expérience de nous élever toujours plus spirituellement. Donc, Poser cette question à Jésus au quotidien. Qu'est-ce que je peux encore faire pour être prêt? Premièrement, donc, il donne plusieurs pistes. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Peut-être que d'accord avec ça. Hein. Où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. Colossiens 3, 1 et 2. Alors immédiatement, pour certains, ça a donné des choses où ils ne vivaient pas, plus sur terre. La Bible ne dit pas ici, préoccupez-vous des choses d'en haut, enfermez-vous votre chambre, ne faites plus que lire la Bible et prier toute la journée. Préoccuper des choses d'en haut, ça veut dire tout mon attitude est celle d'un chrétien sur terre. Mais je vis ma vie quand même, en tant qu'être humain dans un corps. Je crois que c'est important qu'on le réalise, ça. On peut être du ciel tout en ayant les pieds sur terre. Colossiens 3, 4. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Un peu plus loin, il dit, je sais qu'une tempête arrive sur ce monde. Le Seigneur me l'a fait savoir très clairement. Et là, je ne vois pas du tout de quoi il parle et c'est pas détaillé non plus. Donc, on peut rien en faire de ça. Tout le monde peut déclarer qu'il y aura une tempête qui est à venir, mais je ne sais pas. Ensuite, il parle de certaines choses. Certains vont souffrir des dettes. Le Seigneur nous demande de ne rien devoir à personne, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Je sais que cette doctrine circule. Nous estimons que pour certaines choses, vivre avec un emprunt, ça peut être un investissement qui nous permet de réaliser quelque chose. Maintenant, vivre dans des crédits consommation tout le temps, où on est de plus en plus pris par les dettes, esclaves, et à la fin on n'arrive plus à s'en sortir, ça c'est certainement quelque chose qui détruit les gens, hein. Et nous avons ces avertissements dans la parole de Dieu que les soucis du monde et la séduction des biens étouffent la parole, la rendent infructueuse. Il y a aussi cet esprit de convoitise, on doit se garder, vouloir toujours plus. Nous sommes très très sollicités par la publicité de toutes sortes. Publicité, ça peut être un moyen d'information pour faire de bonnes affaires, ou alors de créer des besoins chez des gens qui n'en avaient pas. Il dit aussi, je vous dis maintenant avec un cœur brisé, qu'il y a une multitude qui pense qu'ils vont être aux noces de l'agneau, et malheureusement, ils vont se faire dire, ce passage de Matthieu 22, 11 à 13, le roi entra pour voir les convives, et s'aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc là encore, ce n'est pas applicable doctrinalement. Parce que ça voudrait dire quoi? Que quelqu'un a réussi par je ne sais quel moyen d'être au ciel, puis on s'est aperçu, ah, mais il y a une erreur là. On s'est trompé, il n'aurait jamais dû rentrer celui-là. Mettez-le dehors de nouveau. Vous voyez, c'est incohérent. Cette histoire a été donnée pour illustrer un fait. Il y a toujours une différence entre un enseignement doctrinal et une illustration. Et souvent, c'est bien précisé dans les évangiles. Jésus dit cette parabole pour montrer quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est un enseignement absolu, dans le sens que, attention, vous êtes peut-être au ciel, mais l'instant d'après, vous n'y êtes plus, parce que vous n'aviez pas les habits qui conviennent. Ça ne marche pas. C'est pour ça que je vous dis, je suis sensible à certaines choses qu'on veut dire aux gens, réveillez-vous, sanctifiez-vous, etc. Mais on utilise des faux arguments qui font que les gens sont habitués à avoir des raisonnements à peu près bibliques, à peu près, mais pas justes. Ici, il nous a dit, je traduis à ma façon. Si dans le naturel, on n'accepte pas des gens qui ne sont pas prêts pour le mariage, dans la salle des noces, ça veut dire que pour nous, en tant que chrétiens, il y a aussi des exigences. D'accord? Et je ne peux accepter ce qu'il a dit, que certains pensent qu'ils sont prêts et ne sont pas prêts, que d'une seule façon. Il y a des gens qui se persuadent qu'ils sont chrétiens. Mais c'est qu'une adhésion intellectuelle. C'est dans leur tête qu'ils ont adhéré. Mais leur cœur n'a jamais été converti. Ils n'aiment pas Jésus, ils ne le connaissent pas. Ceux-là auront des désillusions. Donc il dit, encore, il donne un exemple, vous ne montrez pas, vous allez être laissé. Et il utilise Matthieu 24, 40, l'un sera pris, l'autre laissé. Ce n'est pas en rapport avec ce qui va se passer à l'enlèvement de l'Église. Donc, on peut observer toute chose, retenir ce qui est bon, mais je trouve que c'est un peu dur tout ça, hein, de voir que c'est truffé d'imperfections, vraiment truffé. Et je pense maintenant à l'ensemble des ministères, je vais m'arrêter avec ça, l'ensemble des ministères qui sont dans le corps de Christ. Les ministères doivent travailler ensemble. Si quelqu'un pense qu'il est un prophète, une prophétie comme ça devrait passer absolument à la moulinette d'un docteur de la parole et dire, David, écoute, je comprends ce que tu as voulu dire, mais laisse ce verset de côté, mets-en un autre à la place. Et là, tu es pas bon dans ta doctrine. Le ministère du Nouveau Testament doit toujours être capable d'enseigner et de prêcher. Enseigner et prêcher. L'enseignant n'est pas seulement le docteur de la parole. Chaque évangéliste doit être capable d'enseigner. Chaque pasteur doit être capable d'enseigner. Chaque apôtre doit être capable d'enseigner. Chaque docteur doit être capable d'enseigner. Prophète, je dis, tous les cinq, c'est important qu'on le réalise. Nous, on croit qu'il y a deux extrêmes. Il y a les prophètes, qui sont un peu là-haut, quelque part. Ils reçoivent des choses directement du trône de Dieu. Et quand ils le disent, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Et alors, il y a les docteurs, eux, ils sont pas très inspirés. Mais ils ont passé tellement d'heures dans leurs bouquins que, alors, ils viennent avec leur théologie froide et tout, et ils cassent tout le souffle prophétique. Ça, c'est une caricature, ça. Le prophète, il entend de Dieu, mais en même temps, il est nourri de la parole. Il est capable de discerner. Et l'enseignant, il reçoit par révélation des enseignements de Dieu. Et ils sont tout autant inspirés. Et si les deux travaillent ensemble, il y aurait moins de déchets. Parce que là, on est poussé dans un extrême ou un autre. Je le dis franchement, peu de personnes sont capables de faire ce que je fais maintenant, que nous faisons ensemble. C'est-à-dire prendre quelque chose et en retirer les bonnes choses. Sans détruire le bonhomme, dire « Wilkerson est un faux prophète ». Voyez ? Mais c'est ça que nous sommes appelés à faire. De la même façon que dans le corps de Christ, les deux ministères d'évangélistes et de pasteurs sont importants. L'évangéliste, sa passion pour les âmes qui veut faire gagner les gens à Christ peut le déséquilibrer complètement. Le pasteur qui ne voit que son troupeau, il peut être déséquilibré complètement. S'ils travaillent ensemble, c'est ça qu'il faut. Donc continuons d'être attentifs à ce que l'Esprit dit aux églises, sans rejeter, sans dire, on n'a pas toujours le temps d'étudier 8 pages en détail pour voir qu'est-ce qu'on peut bien en retirer. Mais ensuite, il y a encore des exhortations. Là encore, il dit que les disputes entre chrétiens, les critiques, etc., ces choses-là, il s'arrête. On ne peut être que d'accord. Mais cela ne détermine pas votre salut. Là, il en sort aussi une très grosse. Il dit à un moment, c'est très clair dans la parole que tout chrétien qui ne pardonne pas ne peut pas être sauvé. Ben non, ce n'est pas clair dans la parole comme ça. Ce n'est encore une fois pas une doctrine du salut qui explique ça. C'est ce que Jésus était en train de dire dans Matthieu à un public juif qui se convainquait que eux, ils étaient les seuls élus. Et eux, ils vivaient leur spiritualité entre eux et ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse pardonner à quelqu'un qui était moins bon que eux. Et il leur explique que ceux qui sont en train de vivre en eux n'est pas du royaume de Dieu. Et que le pardon de Dieu va de pair avec le fait de pardonner aux autres. Mais notre salut ne dépend pas de notre attitude de pardon. Notre salut à nous dépend de ce que Jésus a accompli pour nous. Et ensuite, la puissance du Saint-Esprit qui nous transforme nous rend capables de pardonner. Mais jamais, 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 jamais. Et ce n'est une condition au salut de dire « si tu ne pardonnes pas, tu n'iras jamais au ciel ». Ce n'est pas la vérité, comprenez ? Mais en disant ça, je ne dis pas qu'il faut être léger et qu'on peut se permettre d'avoir des rancunes, d'avoir des disputes, etc. Une chose, donc que j'ai dit, ça ne ferme pas l'accès au ciel, mais ça perturbe sérieusement notre vie sur terre qui risque d'être misérable. Puisque une chose qui est clairement enseignée par Jésus, c'est dans Marc 11, elle dit, si vous avez quelque chose contre votre frère et que vous voulez faire votre prière, règle ça d'abord, parce que ta prière sera pas efficace, parce que tu peux pas être dans la foi et en même temps avoir toutes ces confusions et tous ces ressentiments. Un autre moment, il dit aussi dans Matthieu 24, il dit « Attention, maintenant ça va être encore plus sévère. Si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Là encore, ce n'est pas une illustration d'un chrétien qui vit à la fin des temps. Et là, il dit, s'il vous plaît, remarquez que ce serviteur était chrétien. Mais comment ça? Non. La Bible ne dit pas, ce serviteur était chrétien. C'est encore une illustration de la part de Jésus de dire, pensez ce qui se passe dans la vie des gens. Imaginez maintenant qu'un maître et un serviteur, il lui confie un certain nombre de responsabilités, et puis il revient et il le trouve dans cette situation. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en débarrasser. Donc, pour nous, on doit le transposer à notre vie. Mais un chrétien qui essaye de plaire à Dieu ne va pas justifier le fait qu'il bat ses compagnons de service. Il ne va pas chercher à boire avec les ivrognes et manger, etc. Mais les choses ne vont pas ensemble. Cherchons les choses d'en haut. Alors, nous avons déjà eu des exhortations là-dessus et on continue d'être attentifs à ce qui sort de notre bouche, que nous soyons en train de bénir et non pas maudire. Puis il y a encore un certain nombre de choses concernant des avertissements. Ben, oui, c'est bien. Ne résistez pas, ça c'est bon. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ça c'est dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, et ça c'est très important qu'on le réalise. Mais certaines choses, l'Épître aux Hébreux, je pense à ce verset, quelque part il est aussi utilisé. « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Dans le contexte, c'était Jérusalem menacée par les Romains. Le peuple juif était en train de dire « La colère de Dieu vient sur nous à cause de vous, les chrétiens hébreux. Vous êtes détournés du Dieu de vos pères. » À cause de ça, la colère de Dieu est venue sur nous, vous êtes responsables. Alors plusieurs chrétiens se cachaient maintenant et n'allaient plus dans les assemblées chrétiennes. Donc l'exhortation, n'abandonnez pas votre assemblée. Et ce verset a été utilisé depuis des siècles maintenant pour condamner chaque chrétien qui avait osé quitter une église locale pour aller ailleurs. Mais ce n'est pas juste, encore une fois, d'utiliser la Bible de cette façon. Même si nous pouvons que exhorter en disant « n'abandonnez pas vos assemblées », ça veut dire « rassemblez-vous quelque part, participez, ayez part, et en même temps vous allez être au bénéfice de la parole, des prières, de la communion fraternelle, et vous allez apporter votre part, ne restez pas seul dans votre coin à ne rien faire, voyez ?» Mais nous avons besoin d'utiliser la parole justement. Alors, il nous est dit que ce message, il peut apporter la tristesse dans nos cœurs. Mais le Saint-Esprit peut faire l'œuvre aussi en vous par ce message. Et nous savons que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc on peut toujours prier les uns les autres pour qu'il y ait une repentance. Ça veut dire qu'on a tous besoin de repentance, changer de mentalité. Il y a des choses qu'on croit et qui ont besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Donc que Dieu nous aide et aussi qu'il nous aide ensemble à avoir une attitude positive, parce que maintenant nous vivons dans un monde où beaucoup de pasteurs ne peuvent plus lutter contre Internet. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut le dimanche matin, et les gens, pendant la semaine, ils ont accès à tellement de choses. Je ne peux faire qu'une chose, c'est de vous exhorter à discerner, retenir ce qui est bon, prendre les bonnes choses et continuer de diffuser le message de l'Évangile dans toute sa simplicité, mais aussi dans toute sa puissance. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.